Radio Okapi.
Présenté par Béinda Bosuma, voici le sommaire. Plus de 250 cas d'arrestation des personnes déplacées enregistrés entre janvier et juillet 2024. C'est notamment à Goma, dans le Niragongo, le Lubero et à Beni, au Nord Kivu. C'est ce que dénonce un collectif d'avocats sur place. Des centaines de personnes sans abri à Mulundu, territoire de Lwilu dans la province de Lomami. C'est après l'incendie de leurs habitations par un feu de brousse. L'administrateur de Lwilu plaide pour une assistance humanitaire en faveur de ces sinistrés. Et puis, clôture hier de la 9e édition du Forum Chine-Afrique sous le thème « Travaillons ensemble pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». Pour en parler, nous recevons Shan Hui Zhang, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Un collectif d'avocats a enregistré plus de 250 cas d'arrestation de personnes déplacées entre janvier et juillet de cette année. Ces arrestations ont eu lieu notamment à Goma et dans les territoires de Niragongo, Lubero et Beni, motivées par l'absence des pièces d'identité ou par des accusations de collaboration avec le M23. Ces arrestations mettent en péril la sécurité et les droits fondamentaux de ces personnes déjà fragilisées par le conflit. Rosalie Zawadi nous en parle.
Alertée par le nombre croissant des déplacés détenus pour absence des pièces d'identité, quelques avocats se sont mis ensemble pour suivre leur dossier. Sans pièces d'identité, ces déplacés ont été accusés d'être des collaborateurs des rebelles. Avec les animateurs de la société civile, ces avocats ont réussi à obtenir la liberté de plusieurs déplacés, explique Maître Franck Bisika, avocat au barreau de Goma.
À Goma, dans le territoire du Niragongo, nous avions eu également à identifier 256 cas d'arrestation dans l'intervalle de ces 7 mois. Et c'est seulement 187 personnes qui ont été libérées de par l'intervention des différentes parties prenantes. Mais au-delà de ça, nous avions également enregistré les cas d'arrestation dans le territoire de Lubero, ville de Beni, ville de Butembo, qui constituait un nombre important de 57 victimes.
Maître Bisika ajoute que l'assistance judiciaire est gratuite. Il encourage les chefs de camp à identifier tous les déplacés dépourvus des papiers afin de faciliter les démarches d'obtention d'une attestation des pertes des pièces, ce en attendant la délivrance des cartes. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Kwilu, les miliciens Mobondo perçoivent de l'argent du trésor public au village Parking BRB. La province perd ainsi beaucoup d'argent, déplore le directeur général de la Régie générale des recettes du Kwilu. Jean Lundenge affirme que tous les agents ont été retirés de ce poste à cause de la présence de ces miliciens. Ce responsable interpelle les autorités compétentes. Irène Boma nous en dit plus.
Selon les responsables de la Direction générale des recettes du Kwilu de Jerek, c'est depuis plusieurs semaines que les frais dus à la taxe de l'évacuation des produits agricoles sont perçus par les miliciens Mobondo. Les faits se déroulent précisément au village Parking BRB, situé au secteur de Wamba dans le territoire de Bagata. Le directeur Jean Lundenge affirme avoir complètement perdu le contrôle des postes de péage se trouvant dans ce coin de la province du Kwilu à la suite de l'insécurité. Du coup, c'est la province qui perd jusqu'à 5 millions de francs congolais selon les assignations mensuelles. Jean Lundenge appelle au rétablissement de la paix pour la reprise des activités de la régie.
Nous n'avons plus le pouvoir de gérer ces postes et par le fait qu'il y a l'insécurité, je ne peux pas aussi exposer nos agents. J'ai demandé que les quelques agents qui sont restés là-bas puissent regagner Fatounou en attendant que la paix revienne. La province est en train de perdre beaucoup d'argent en termes de recettes. Nous avons toujours demandé que la paix revienne, que la police et la FARDC puissent sécuriser normalement la population de ce coin.
Rappelons que les miliciens Mobondo sont actifs dans la partie frontalière entre les territoires de Bagata et de Kenge, où ils tracassent les voyageurs, rapportent plusieurs sources. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, nous apprenons que plus de 1050 enfants sont sortis des groupes armés depuis le début de cette année dans cette province où l'insécurité persiste, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Chiffre rendu public hier par le secrétariat technique du Bureau pour le volontariat au service de l'enfant et de la santé, BVS. C'était à l'issue d'un atelier interprovincial sur le recrutement et l'utilisation des enfants au sein des groupes armés. Ces acteurs recommandent à l'État d'accélérer les processus de prise en charge des miliciens ainsi que du PDDRCS enfants, le compte-rendu de Ézéchiel Mousalia.
Pendant deux jours, une cinquantaine d'acteurs impliqués dans la lutte contre l'utilisation et l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés venus du Maniema, Nord et Sud Kivu, du Tanganyika et de l'Ituri se sont penchés sur la situation générale des milliers d'enfants encore actifs dans des groupes armés. Selon Alex Bisengo, membre du secrétariat technique et du Bureau pour le volontariat au service de l'enfant et de la santé, BVS, sur plus de 7000 enfants enregistrés dans 23 groupes armés en Ituri, 1050 sont sortis cette année.
Le nombre de groupes armés est estimé à 23, dont 7000 enfants présumés. 751 ont été déjà sortis et à cela s'ajoute le 300 quelques qui venaient d'être retirés la semaine passée.
Des avancées significatives mais qui nécessitent encore un appui des partenaires pour libérer tous les enfants qui sont encore au sein des groupes armés en province, confie Irène Vaweka, conseillère du gouverneur en charge de la jeunesse.
C'est quelque chose à féliciter que la province de l'Ituri est très avancée. Il y a beaucoup de choses à faire pour que des actions concrètes soient menées.
Le représentant national du PDDRCS salue la tenue de cet atelier qui a été appuyé par la section de la protection de l'enfant de la MONUSCO. Il promet de transmettre toutes ses recommandations à sa hiérarchie. Bounia, Ézéchiel Mousalia, Radio Okapi.
Et puis, n'envoyer désormais en prison que des condamnés en justice. C'est l'une des recommandations de la société civile exprimée lors d'un point de presse tenu hier à Kinshasa. C'est à la suite de la tentative d'évasion dimanche dernier à la prison centrale de Makala à Kinshasa face à la presse. Christopher Ngoy, coordonnateur de la société civile de la RDC, demande aux Congolais de soutenir le gouvernement en place. Christopher Ngoy, dans ses propos recueillis par Étienne Lissumbu.
Dans cet ordre d'idées, nous félicitons la bancarisation des frais judiciaires et encourageons la traque des magistrats véreux qui confondent allègrement les droits des citoyens avec le droit de leur poche. Nous félicitons aussi la décision de n'envoyer désormais en prison que des condamnés en justice et non plus de simples suspects ou prévenus, car les magistrats trouvent encore toutes sortes de superfuges pour contrecarrer les actions salutaires du ministre d'État, mais se heurteront toujours à la résistance de la société civile de la RDC. La société civile de la RDC déplore les morts de trop. Une fois de plus, fauchés lors de la récente tentative d'évasion au CPRK, mieux connu sous le nom de prison centrale de Makala. Elle partage la douleur des familles ainsi éplorées et invite les autorités compétentes, de concert avec les organisations des droits de l'homme, à faire toute la lumière sur cet incident malheureux afin que les justes responsabilités soient établies sans complaisance.
Je vous l'ai dit dans les titres, dans la province de Lomami, plus de 100 familles de certaines localités de la chefferie de Mulundu, territoire de Lwilu, vivent actuellement sans abri. C'est après l'incendie de leurs habitations par un feu de brousse. L'administrateur de Lwilu plaide pour une assistance humanitaire en faveur de ces familles sinistrées. Esther Ndalafina, reportage.
Les sources sur place affirment que plusieurs habitants du village de Chibungu dans la chefferie de Mulundu sont sans abri depuis bientôt un mois après l'incendie par un feu de brousse d'une trentaine de maisons. Dans la même chefferie, cette fois-ci dans la localité d'Engo, Ibadolite et Abuinana, les habitants ne savent à quel sens se vouer pendant cette période de rentrée scolaire. Certains habitants ont été accueillis dans des familles d'accueil où ils vivent sans aucune assistance. Les semences gardées pour le semis à la saison culturelle A ont été consumés par le feu. Les habitants demandent aux organisations internationales et aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide avec les outils aratoires et les semences. À Kachisungu, les habitants de la localité de Kabuya et ceux de Musenge n'ont pas été épargnés par le feu de brousse. Même situation dans les territoires de Kabinda où quelques maisons sont parties en fumée dans la localité de Lufwaka jeudi dernier. Contacté, l'administrateur du territoire de Lwilu sollicite une assistance humanitaire en faveur des familles sinistrées. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retournons au Nord Kivu. Une semaine après les fortes pluies qui ont frappé la chefferie de Watalinga dans le territoire de Beni, le bilan exact de cette catastrophe naturelle est désormais connu. Selon le chef de cette chefferie, le bilan définitif est de 2 personnes décédées et plus de 2000 maisons détruites. De plus, 3 groupements de cette entité sont isolés du reste du monde en raison de l'impraticabilité de la route principale qui les relie. Le Mwami Sambili Pascal Bamukoka appelle à une assistance d'urgence du gouvernement et des partenaires humanitaires. Le Mwami Sambili décrit la situation. Il est joint par Marc Marofimbo.
La situation actuelle est très catastrophique. Au niveau même des ménages, les gens ne savent plus où dormir. Notre route qui relie mes 3 groupements, qui est déjà impraticable. Actuellement, la population ne sait même plus comment faire les champs. La vie humanitaire est tellement compliqué pour l'instant suite à cette catastrophe posée par une série de pluies diluviennes. Nous avons déjà informé notre hiérarchie, le territoire, la province et même le niveau central. Ça serait mieux que notre hiérarchie envoie même une organisation qui va venir pour une intervention d'urgence afin de voir comment sauver la situation qui se passe actuellement dans la chefferie de Watalinga. C'est une affaire de plus de 2000 quelques de maisons endommagées. C'est terrible. C'est comme ça que nous sommes en train de la CNSOS pour que si possible, si même le gouvernement à tous les niveaux et même les humanitaires qu'ils nous viennent en aide, sinon la situation que nous traversons est tellement compliquée.
Notez que la rentrée scolaire n'a pas eu lieu dans cette région. Autre nouvelle, clôture hier à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga de la 2e édition du Salon de l'agriculture. Pendant 2 jours, les participants, parmi lesquels les membres de la société civile, ceux de l'ANADEC, de l'ANAPI et les sociétés qui vendent les semences, ont réfléchi sur le thème mécanisation agricole et transformation agroalimentaire, 2 leviers pour le développement de Kasumbalesa. D'après l'AFEC Kasumbalesa, initiatrice de cette rencontre, l'objectif est de chercher une alternative à la dépendance de la ville de Kasumbalesa vis-à-vis de la Zambie. D'autres détails avec le secrétaire administratif de la FEC Kasumbalesa, Edouard Kayumba, joint par Jean Gando.
L'objectif ici, c'est de promouvoir l'agriculture. Nous voudrions, comme la ville dépend totalement de la Zambie, communiquer avec la population et les commerçants pour que les gens s'investissent dans l'agriculture. Les résultats sont bons parce que déjà, dès la 1e édition jusqu'à maintenant, là, il y a augmentation de nombre d'acteurs dans les secteurs agricoles, mais un peu aussi d'investissement. Nous aurons beaucoup plus besoin de l'apport de l'État congolais, par exemple, sur le plan de l'exonération totale, pour ne pas dire de l'exemption de tous les frais au niveau de la frontière, afin que les intrants agricoles passent librement, sans contrainte. C'est ça le casse-tête pour le moment. Parce qu'on ne peut développer l'agriculture qu'avec des machines et même il faut transformer. Il en est de même que pour bien développer, nous devons être soutenus par le gouvernement. Souvent, ces soutiens-là n'arrivent toujours pas à destination.
Direction la province du Tanganyika. Des problèmes se posent au niveau de la centrale hydroélectrique de Bendera. La SNEL rassure la population de sa détermination de desservir l'énergie électrique. Propos du chef des divisions en charge de la production et du transport du courant à Bendera. C'était hier vendredi à Kalemi au cours d'une conférence de presse. Marcel Sagalikaite précise que cette centrale est défectueuse. Elle date de l'époque coloniale. Paulin Munanga.
Les pannes qui interviennent au niveau de la centrale de Bendera sont récurrentes. La dernière panne en date a plongé la ville de Kalemi et ses environs dans les noirs pendant 10 jours. Pour l'assistant technique de la SNEL à la division en charge de la production et du transport du courant à Bendera, cette centrale hydroélectrique a été mise en service en juillet 1959, ce qui explique la vétusté des matériels. Cependant, André Kaïté rassure la population que la SNEL est déterminée à desservir la population en énergie électrique à travers une maintenance préventive et curative de la centrale de Bendera.
Au niveau de la centrale de Bendera, nous avons 2 machines. Les groupes sont obsolètes. Ce que nous devons tenir d'abord, ce sont des machines qui ont dépassé leur durée de vie. Alors,
Si ça tient encore aujourd'hui, c'est grâce à la politique de la maintenance. Parents, nous devons arrêter ces groupes-là 4 fois.
Malgré ces difficultés, Marcel Sagalikaïte, chef de division en charge de la production et du transport du courant à Bendera, rappelle que le projet de réhabilitation, modernisation et extension de la centrale de Bendera est en cours et il est exécuté par l'entreprise Malta Forest. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
En sport, notez que la 41e édition de la Coupe du Congo de basketball se clôture ce samedi au gymnase jumelé du Stade des Martyrs de la Pentecôte avec la finale dans les deux versions. En version féminine, le BC Makomeno de Lubumbashi joue contre CNCS de Kinshasa. En version masculine, Show Sport de Bukavu va disputer le titre avec Terreur de Kinshasa.
Actualité internationale.
La riposte est en marche contre l'épidémie de Mpox qui touche 12 pays du continent. Vendredi, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont lancé le plan de riposte. Il intervient 3 semaines après que l'OMS a déclaré urgence mondiale la vague de contamination au Mpox en Afrique. La réponse à la pathologie doit durer 6 mois et nécessite 600 millions de dollars.
L'invité.
La 9e édition du forum Chine-Afrique s'est clôturée hier vendredi. Une édition autour du thème « Travaillons ensemble pour promouvoir la modernisation et construire une communauté de destin sino-africain de haut niveau ». Le chef de l'État congolais, accompagné de quelques ministres des secteurs de l'économie et du développement, ont pris part à ces assises. Pour en parler, votre radio reçoit Shan-Wi Zhang, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Elle s'entretient avec Jocelyne Moussaou Pondé, interview réalisée à l'ouverture de cette rencontre.
Shan-Wi Zhang, bonjour.
Bonjour, Jocelyne. Bonjour depuis Pékin, la capitale chinoise.
Quelle est l'importance de ces assises et quelle est la particularité de cette 9e édition?
D'abord, il s'agit d'un sommet qui relie la Chine et l'Afrique. Donc, moment pour célébrer cette amitié. Et c'est également la plus grande manifestation diplomatique organisée par la Chine ces dernières années et en même temps avec la participation du plus grand nombre de dirigeants étrangers. Il faut également qu'on fasse attention à cette relation entre la Chine et la RDC, puisque il faut dire que c'était à 10h le 2 septembre que le président chinois a rencontré le président de la République démocratique du Congo au Grand Palais du Peuple à Pékin, marquant la première activité bilatérale avec un dirigeant étranger participant au sommet. Donc, cela marque le début du sommet de forum sur la coopération sino-africaine de 2024 pour le président chinois Xi Jinping. Et là, effectivement, cette fois-ci, c'était avec la RDC. Donc, je pense que ça revêt quand même une signification de l'importance que la Chine attache à la RDC.
Et pour ce qui est du président Félix Antoine Tshisekedi, le président congolais, qui est là sur place avec quelques membres de son gouvernement, c'est sa 3e visite en Chine en pratiquement une année. Qu'est-ce que cela représente pour la République populaire de Chine?
Cela représente pour la République populaire de Chine que la Chine déjà devient de plus en plus attirant pour la RDC et vice-versa, puisque du côté de la Chine, la RDC revêt une très grande importance, non seulement par le naturel, par son marché potentiel énorme dans l'électricité, et aussi par son expertise, par ses particularités culturelles, et aussi par des années de confiance qui a été noué entre la Chine et la RDC. Et d'ailleurs, il faut quand même souligner que depuis quelques années, la Chine accroît ses investissements en RDC. Par exemple, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé au premier trimestre de cette année, l'investissement en Chine a été le plus en RDC qu'à n'importe quel pays en Afrique.
En dehors des mines, en dehors du numérique, il y a aussi les secteurs congolais de l'agriculture qui intéressent la Chine et qui en ce moment demandent des produits tels que les piments, tels que l'huile de palme.
Le marché chinois est tellement grand que, en effet, le marché a la capacité d'absorber tout de suite une grande quantité et un grand volume. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est non seulement au niveau du stock, non seulement au niveau d'approvisionnement de la part de la RDC, c'est peut-être aussi quelque chose qui va représentait davantage d'opportunités à la RDC, tant aussi le développement non seulement l'agriculture, mais aussi d'autres industries qui sont autour de l'agriculture. Par exemple, l'industrie de l'emballage, de l'étiquetage. On voit aujourd'hui ce besoin palpable du côté de la RDC et peut-être que les entreprises chinoises vont pouvoir fournir des solutions en lien avec la RDC.
Et en dehors de la RDC, quels sont les autres pays africains qui sont aussi présents à cette 9e édition du Forum Chine-Afrique?
Eh bien, pratiquement tous les pays africains, soit le chef d'État, soit un représentant du chef d'État, tous ces pays, chaque pays trouve son compte dans sa coopération avec la Chine. Il y a tellement de différentes potentialités de voir cette possibilité avec 1,4 milliard de personnes que représente le marché chinois. Et vice-versa, ce que la Chine peut fournir à un pays d'Afrique en pleine voie de développement et en pleine croissance, qui ont besoin de davantage de technologies, de formation professionnelle, d'intelligence artificielle, le besoin du tourisme aussi, ces secteurs d'immobilier, dans l'investissement, les réseaux de l'eau, les réseaux d'approvisionnement d'électricité, les réseaux d'infrastructures. Voilà, donc on voit bien que la Chine n'est pas un pays développé. La Chine est un pays en développement et qui venait de sortir depuis pas longtemps de la pauvreté. Donc c'est pour ça que la Chine aurait peut-être davantage d'expérience
à partager avec les pays africains.
Récentes à partager avec un pays en Afrique.
Shanwei Zhang, merci d'avoir échangé avec nous.
Merci Jocelyne.
Voilà, c'était là notre invitée, journaliste à la télévision chinoise CGTN. Elle nous parlait de la 9e édition du Forum Chine-Afrique qui s'est clôturée hier vendredi à Pékin. Et l'interview était réalisée par Jocelyne Moussaoupondé. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, Debs Vita à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.